France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, bonjour. Nous commençons cette émission en vous présentant nos meilleurs vœux pour la fête de la Nativité du Christ, célébrée par l'Église orthodoxe le 25 décembre ou le 7 janvier, en fonction du calendrier suivi. Dans la première partie de cette émission, nous rendrons hommage au père Michel Evdokimov, qui nous a quittés le 1er juillet dernier dans sa 94e année. Théologien et prêtre orthodoxe, le père Michel a été professeur de littérature comparée à l'Université de Poitiers et très actif dans la vie de l'Église orthodoxe en France, ainsi que dans le mouvement œcuménique. Michel Evdokimov fut aussi un grand ami de notre émission à laquelle il a participé de nombreuses fois, soit dans des entretiens ou des tables rondes, soit en proposant des homélies sur les différentes solennités de l'année liturgique. Le premier extrait que nous écouterons aujourd'hui est tiré de l'émission du 12 mai 1974, où il participait avec le théologien Olivier Clément à une discussion sur le thème de la fête.
La fête est une rupture. Elle rompt un rythme plus ou moins monotone, un rythme bien organisé, n'est-ce pas? La vie est bien huilée, c'est métro, boulot, dodo, tous les jours on va au travail, on revient, on est plus ou moins ennuyé par ce rythme de vie. Alors on va faire la fête, on va revêtir des habits différents, on va peut-être s'enivrer, on va faire un bon repas, n'est-ce pas? Quitte à souffrir le lendemain d'une maladie de foie. Mais on aura rompu quand même un certain cycle presque infernal.
Je crois qu'on mange trop, d'une manière quotidienne pour pouvoir vivre la fête à ce niveau somatique.
C'est ça.
C'est dans les civilisations, il ne peut y avoir de joie de la mendication festive que s'il y a jeûne, je suis persuadé. Et comme il n'y a plus jeune à notre époque, n'est-ce pas, et comme c'est presque tous les jours la fête des fous, je m'excuse de dire cela, mais j'ai quelquefois l'impression que ça pourrait assez bien définir un côté de notre civilisation. Alors, il y a certaines possibilités de fête qui nous sont enlevées, n'est-ce pas? Oui. Les gens qui ont le foie malade parce qu'ils mangent trop quotidiennement, eh bien, ils ne peuvent plus. C'est très joli. Même, je dirais même des fêtes comme celles que nous avons dans le monde orthodoxe et diocésain, elles sont belles, ces œufs de Pâques, n'est-ce pas? Colorés de toutes les couleurs. Pour combien de nous maintenant, n'est-ce pas? Le foie se révulse à la vue de ces pyramides de rouge, n'est-ce pas? Ils sont très beaux à voir. Il y en a bien envie de se battre avec, n'est-ce pas? Pour savoir celui qui cassera la coquille de l'œuf d'autrui, n'est-ce pas? Oui. Mais ensuite, à la pensée qu'il faudra ingérer, n'est-ce pas, le résultat de ces cassages de coquilles, on est un peu affolé.
Ingérer et puis le digérer aussi. Et il reste ce désir profond, puissant, de faire la fête, même si le corps suit mal. Et n'y a-t-il pas là, tout de même, une certaine réaction en face d'une civilisation, de la technocratie, qui se veut rationaliste, qui organise, n'est-ce pas, comme des rouages tous les compartiments de la vie. Alors, les hommes ne peuvent plus faire la fête parce que ça les met dans des états physiques pitoyables et en même temps, ils ont besoin de faire la fête. Et c'est sur ce besoin, n'est-ce pas, que j'aimerais accentuer la nécessité de la fête à l'heure d'aujourd'hui. Quand je pense à la fête, je pense surtout au partage, à une fête qui est vécue communautairement, à quelque chose qui nous est donné comme une grâce, n'est-ce pas, et que nous avons la joie de partager. Au sujet des fêtes de ces vieilles civilisations agraires, si vous me permettez, j'aimerais apporter un petit témoignage. Nous nous promenions en Grèce il y a quelques années, ma femme et moi, nous étions baignés sur une plage assez loin des villes, il n'y avait pas de touristes, nous étions seuls. Et puis sur cette plage, selon la mode grecque, n'est-ce pas, des familles entières étaient étalées et passaient toute la journée, n'est-ce pas, à se baigner, à se vautrer au soleil, les parents, les enfants, les tantes, etc. Et au moment où nous allions, nous étions rhabillés, nous allions quitter la plage, il y a une mère de famille qui nous arrête et cette famille mangeait ce qu'ils avaient à manger, c'est-à-dire tout simplement du pain. Et la mère de famille nous coupe un morceau de pain et nous le donne avec un sourire rayonnant. Nous n'avons absolument pas pu communiquer, n'est-ce pas? Mais je dirais que le partage de la fête s'est fait à travers ce morceau de pain. Est-ce que ce morceau de pain ne valait pas tous les grands banquets du monde dans les restaurants les plus raffinés? Enfin, c'est ainsi que nous l'avons ressenti, et vraiment nous avons partagé le bonheur de cette journée, de cette lumière, avec cette famille grecque. Vous voyez, je pense que quand on parle de la fête, il ne faut pas non plus toujours prendre en considération ce que nous y mettons dans notre société de consommation. Peut-être que au siècle passé, on pouvait faire la fête, faire des fêtes avec des moyens beaucoup plus modestes. Ça s'est situé sur un autre plan.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans tout le Nouveau Testament, la fête occupe une place primordiale?
Oui, élément de sacrifice, mais aussi élément de joie. C'est un des aspects qu'on a peut-être tendance à oublier dans le Nouveau Testament. Tout ce nombre de fêtes, de festins, de noces, de banquets, n'est-ce pas, ont eu le veau gras dans la joie de voir revenir le fils prodigue. Il y a un élément festif, et il y a des hommes qui reprochent au Christ et à ses disciples, enfin au Christ surtout, de festoyer, de banqueter, n'est-ce pas, au lieu de se livrer à des choses plus austères, plus tristes. Et bien souvent, nous avons fait de la religion une chose triste et austère. Et nous devrions nous rappeler cette parole du Christ disant à ses disciples: « Je suis avec vous en ce moment. Soyez joyeux, bientôt je ne serai plus là, alors vous jeûnerez, vous veillerez, vous prierez, vous serez dans la tristesse. Mais pendant que je suis avec vous, que la joie éclate. » Et n'est-ce pas cela, finalement, le sens profond de la fête telle qu'elle doit être vécue dans l'Église?
Et après cet extrait de 1974, écoutons le Père Michel 27 ans plus tard, le 25 décembre 2001. Il prononce une homélie sur le sens de la fête de Noël.
Bien sûr, il y a le côté commercial, les vacances, la neige, les cadeaux, la fête de famille. Tout ceci est parfaitement honorable, mais il ne faut pas oublier non plus la profondeur de cette fête. Et la profondeur de cette fête, c'est que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, descend dans l'humanité pour partager avec les hommes sa divinité. Comme disent les pères de l'Église, dès les premiers siècles du christianisme, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est là qu'il y a toute une série de paradoxes assez étonnants. Saint Paul parlait de la sagesse, de la folie du monde, et puis il intervertissait les termes en parlant de la folie de Dieu et de la sagesse du monde. Eh bien, on peut dire que en Dieu, il y a une sagesse au moment de la création du monde. C'est le plan qu'il a mis sur place, la création de l'homme, la création de la nature cosmique. Tout cela est plein de sagesse quand on l'approfondit. Et il y a en Dieu également, à cause du péché de l'homme, parce que l'homme s'est détourné de lui, il y a une folie. Et cette folie, elle se retrouvera dans l'incarnation. Et c'est pour ça que tout dans la fête de Noël est paradoxal. Par exemple, Dieu sort de sa toute-puissance, il vient dans le monde, non pas dans l'éclat du tonnerre, comme le ferait une divinité païenne, telle que Jupiter, mais il vient dans la douce lumière d'une étoile. Lui qui est la lumière du monde, qui est un feu dévorant, il naît dans l'obscurité d'une étable. Lui qui est le créateur de toutes choses, il vient dans le monde par la naissance d'un être créé. Il vient dans le monde et il naît comme tout être humain. Lui qui est riche de toute divinité devient pauvre. Vous vous rappelez cette parole où il dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un toit pour couvrir sa tête ». Les hommes attendaient un Messie terrestre. Ils attendaient un Messie qui prendrait le pouvoir pour faire régner la justice parmi les hommes, mais sur terre. Lui nous parle du royaume. Il nous parle des bienheureux, les pauvres en esprit. Il nous parle de ceux qui sont doux, miséricordieux, qui ont un cœur pur, de ceux qui procurent la paix. Et il appelle les hommes à changer de vie, ce qui signifie à changer tout ce qui se passe dans ce monde, à transformer leur être intérieur, à se laisser transformer, transfigurer par cet amour fou de Dieu qui vient mourir par amour pour nous. Et ça, c'est un trait que l'on trouve sur les icônes de la Nativité. Nous voyons que l'enfant Jésus naît dans une espèce de trou noir. Et sur les icônes, le trou noir désigne le royaume des ténèbres, le royaume de la mort. Et il est allongé dans une espèce, non pas de berceau, mais au fond de cercueil rectangulaire, et il est emmailloté de bandelettes. Autrement dit, il ne faut pas penser à la naissance de Jésus uniquement comme à la naissance d'une vie nouvelle. Bien sûr, c'est une vie nouvelle, mais c'est également une vie qui veut se consacrer à la mort. Si nous nous demandons pourquoi est-ce que Dieu est venu sur terre, il est venu pour mourir et pour, à travers la mort de tout homme, triompher de cette mort et de nous rendre à la vie éternelle. Cet événement est le pivot de l'histoire. Il est le pivot de l'histoire, il apporte un immense bouleversement dont nous n'avons pas encore entièrement pris conscience. J'aimerais à ce propos citer ce livre du père Alexandre Maine, un prêtre russe qui est mort il y a un peu plus de 10 ans, et dont un des livres portait le titre suivant « Le christianisme ne fait que commencer ». Peut-être qu'en effet, il ne fait que commencer. Cet événement de la naissance de Dieu sur terre est le pivot de l'histoire. Un seul exemple, les années dans lesquelles nous vivons se comptent à partir de la naissance du Christ. Il y a l'avant de Jésus-Christ et il y a l'après de Jésus-Christ. Et ce bouleversement des choses, du courant même de l'histoire, se fait dans la simplicité, dans l'humilité, dans la discrétion. Qui sont les acteurs ou les témoins de cet événement tellement bouleversant ? Oh, il n'y a pas des foules, quelques bergers, 3 rois mages, un artisan charpentier, Joseph, et sa jeune fiancée, Marie. Nous sommes loin des grands de ce monde. Nous sommes loin du gouverneur romain, du roi Hérode, de l'empereur Auguste. Le romancier français Bernanos disait que l'événement le plus prodigieux de toute l'histoire des hommes a été ignoré des journalistes du temps, des médias, si tant est qu'il y avait des médias dans l'Empire romain de l'époque. Il a été en tout cas ignoré par eux. Et ce silence des médias, eh bien, nous le retrouvons au XXIe siècle. Les médias ne parlent pas beaucoup de cet événement. Je voudrais, peut-être pour illustrer un petit peu cette fête de la Nativité, donner quelques phrases des hymnes qui sont chantés au cours de nos liturgies de ce temps de Noël. Par exemple, il y a cette très belle hymne de Vêpres qui dit ceci. « Qu'allons-nous t'offrir, ô Christ, parce que pour nous, tu t'es fait voir sur terre comme un homme. Chacune des créatures sorties de toi t'apporte en effet son témoignage de gratitude. Les anges, leur chant, les cieux, l'étoile, les mages, leurs dons, les pasteurs, leur admiration, la terre, la grotte, le désert, la crèche. Mais nous, les hommes, nous t'offrons une mère vierge. » Voilà, c'est très beau, c'est tout l'univers qui est comme rassemblé là autour de la crèche. Et voici ce don que les hommes font, le don d'une mère vierge. Il y a une autre idée que l'on trouve dans les hymnes et qui est la suivante. Le ciel et la terre s'unissent aujourd'hui, le Christ étant né. Cette idée du ciel et de la terre qui se rejoignent, je crois que c'est une idée profonde, une idée féconde de cette fête de Noël. C'est que l'homme maintenant n'est plus isolé sur terre, Dieu étant séparé de Dieu par l'abîme céleste, et que les deux maintenant se rejoignent. On se rappelle le cri du prophète Isaïe qui disait « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Eh bien voilà, ce cri reçoit aujourd'hui, en ce 25 décembre, une réponse. Encore une citation « Aujourd'hui, Dieu est venu sur terre et l'homme est remonté aux cieux. » Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'unir le ciel et la terre, il ne s'agit pas simplement de la descente de Dieu sur terre, mais il faut savoir que cette descente implique comme conséquence la remontée de l'homme vers le ciel. Cet immense bouleversement se fait dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité et discrétion. Ainsi, le père nourricier de Jésus est là, présent, un humble charpentier. Il faut dire que Joseph n'est pas très présent dans nos liturgies de l'Église orthodoxe, contrairement à l'Église catholique où nombre d'églises ou d'écoles lui sont dédiées. C'est lui qui sans doute transmit son métier d'artisan au fils de Marie. Nous savons peu de choses sur les années d'apprentissage de Jésus, sinon qu'il voulut vivre une vie ordinaire d'homme. Nous savons par ailleurs que Joseph a eu des doutes et que ces doutes ont été dissipés par l'ange « Ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Joseph est l'homme d'une grande fidélité à son engagement envers Marie, dans sa fidélité à la volonté de Dieu. C'est lui qui sauvera la vie de l'enfant lors de la fuite en Égypte. Joseph est plus âgé que Marie, sans doute est-ce un veuf qui avait des fils et des filles que l'on appelle frères et sœurs de Jésus, mais qui ne sont pas les enfants de Marie. Joseph est le grand silencieux. Il disparaît dans la période de l'enfance du Christ et sa fiancée, Marie, elle aussi est une grande silencieuse. Toujours cette discrétion, cette humilité qui préside à la naissance du Fils de Dieu sur terre. Marie est présente au grand moment de la vie de son Fils, bien entendu, à sa naissance, mais également elle est présente lorsque les mages viennent adorer. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie ne parle pas beaucoup, elle aussi est une grande silencieuse. Elle est inquiète lorsque son fils âgé de 12 ans s'attarde au temple pour discuter avec les docteurs. Elle est une femme attentive aux besoins des hommes lorsque, à Cana, elle dit à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Elle est une mère douloureuse quand elle entend la prédiction du juste Siméon « Un glaive te percera le cœur » et cette prédiction sera réalisée au pied de la croix où Jésus la confie à son disciple bien-aimé, lorsqu'il dit « Fils, voici ta mère » et lorsqu'il dit à Marie « Mère, voici ton fils ». Le silence de Dieu, de ce Dieu tout-puissant, est lié à la discrétion, à l'humilité de Bethléem. Voilà de quoi susciter notre émerveillement, notre joie. Puissions-nous, nous aussi, faire rayonner cet émerveillement et cette joie dans le monde qui nous entoure.
Père, vous avez parlé tout à l'heure des paradoxes qui sont justement inclus dans cette fête de Noël. On a parlé de l'icône également. Je crois qu'un des paradoxes les plus importants, c'est l'humilité, cette condition que Dieu choisit pour entrer dans l'histoire, n'est-ce pas, qui contraste fortement avec sa toute-puissance, avec ce qu'on attend peut-être même de lui.
Oui, le grand paradoxe, encore une fois, c'est Dieu ne vient pas sur terre pour prendre le pouvoir, pour régner sur terre. Dieu règne dans le royaume, qui est un autre monde, un monde invisible. Et il nous apprendra dans son message, que le chrétien est celui qui est préoccupé par le sort des pauvres, des humiliés de la vie, des blessés de la vie, de ceux qui sont un petit peu en marge, qui ont du mal à vivre. Pas seulement eux, bien entendu, il y a aussi des gens qui sont bien dans leur peau dans le christianisme. Mais le Christ voudrait que nous prêtions une attention particulière à ceux qui ont une difficulté à vivre. Et cette discrétion qui entoure la naissance de l'enfant Jésus, comme vous disiez, c'est une naissance, c'est une discrétion qui fait que cette naissance est ignorée. Elle est ignorée par les foules, mais elle est mystérieusement à l'œuvre quand même. Notre Noël de cette année 2001 vient à une époque où il y a tellement d'exclus, tellement de marginaux, tellement de gens qui ont du mal à vivre, et, ou qui, comme Joseph et Marie, sont des exclus de l'hôtellerie, car il n'y a pas de place pour eux. Noël se célèbre à une époque où, ne l'oublions pas, tant d'enfants sont violentés, battus, soumis à un travail harassant qui les prive de leur jeunesse. Est-ce que cela ne nous rappelle pas le massacre des innocents, lorsqu'il y a une manifestation puissante de Dieu dans ce monde? Alors on a l'impression que les forces du mal se rassemblent pour donner des grands coups, des coups sanglants. Eh bien, ces innocents, ces gens exclus, ces gens blessés par la vie, ont en Marie une mère au cœur transpercé par un glaive. Noël, souvent, est une fête païenne réduite aux cadeaux, aux banquets, aux réveillons. Mais les médias font silence, un silence assourdissant sur la venue de Dieu sur terre. Dieu se tait. Eh bien, Dieu se tait parce qu'il doit en être ainsi, pour laisser l'homme libre, pour ne pas contraindre cette liberté de l'homme. Voilà ce silence de Dieu Tout-Puissant qui est lié à l'humilité de Bethléem.
Il faut prier pour que l'on puisse justement nous approcher et nous ouvrir face à ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Merci beaucoup, Père.
Non,
après cette homélie sur le sens de la fête de Noël par le père Michel Evdokimov, diffusée le 25 décembre 2001, et le condaction de la fête chantée par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycourgos Angelopoulos, écoutons maintenant le message du métropolite Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est né, glorifions-le. Au nom de mes frères évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et d'espérance à l'occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ses bien-aimés. Aujourd'hui naît le Seigneur et Rédempteur, et le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Au cœur des confusions, des violences et des impasses du monde contemporain, la fête de Noël vient comme un signe de contradiction et d'espérance. Aujourd'hui nous est né un Sauveur. L'incarnation du Verbe n'est pas simplement un événement historique, mais la révélation du Dieu vivant aux hommes et à toute la création. Dieu n'abandonne pas le monde à ses problèmes. Il entre dans l'histoire humaine. Il participe à la condition humaine. Il naît dans une crèche, dans la pauvreté et l'insécurité des parents réfugiés. Cette révélation est une révolution d'amour qui renverse toute hiérarchie et valeur humaine. Avant même la nativité, la très sainte Mère de Dieu pressent ce renversement dans son Magnificat. Il déploie la force de son bras, il disperse les hommes au cœur orgueilleux, il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Les affamés, il les comble des biens, et les riches, il les renvoie les mains vides. Avec la naissance du Seigneur, tout est inversé. Le lieu n'est pas un palais, mais une étable. Les témoins de l'événement ne sont pas des rois ou des prêtres, mais des humbles bergers des étrangers. Les marginaux deviennent les premiers annonciateurs de la bonne nouvelle. L'or, l'encens et la myrrhe sont offerts à une famille pauvre. Les dons des riches sont mis au service des humbles, renversement du cours habituel de la richesse. Aujourd'hui encore, alors que les inégalités, la peur de l'autre, le repli et l'injustice continuent de lacérer la chair du monde, le Christ nouveau-né nous appelle à devenir chacun et chacune, mais aussi ensemble comme Église, une crèche vivante, un lieu d'accueil où le réfugié et le citoyen se reconnaissent frères, où le riche et le pauvre se tiennent égaux devant le Créateur, où les blessés et les oubliés retrouvent voix et dignité, où le dernier devient le premier, où le faible est protégé, où l'étranger devient le prochain, où la différence n'effraie plus, mais devient bénédiction. Car Dieu se tient du côté des petits et des humbles. Chaque fois que nous recherchons le pouvoir, que nous nous installons dans la suffisance ou la peur, nous trahissons le mystère de cette crèche. L'humble grotte de Bethléem nous rappelle que Dieu n'en a pas fini avec le monde. Nous ne laisserons pas les ténèbres éteindre la lumière, ni le vacarme du marché étouffer le chant des anges. L'espoir naît aujourd'hui et nous invite à ne pas nous contenter de la nostalgie d'une atmosphère festive de Noël, mais à écouter la voix prophétique de notre foi orthodoxe qui nous exhorte à témoigner concrètement de l'amour incarné, seule force capable de régénérer et de transformer le monde. Au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous vous adressons nos vœux les plus sincères. Que la lumière, la paix et la joie de la nativité du Seigneur emplissent vos cœurs, vos foyers et vos familles, apportant consolation et espérance au seuil de la nouvelle année. Le Christ est né, glorifions-le.
Et avec le message de Noël du métropolite Dimitrios, prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Jean-Louis Deloncle. Nos remerciements à Véronique Jolivet de l'INA pour la recherche des documents sonores diffusés. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Joyeux Noël à tous. Keep on saying.